Alors bonsoir à tous. Donc c'est vrai que ce temps d'élection nous pousse un peu à réfléchir sur le sens de la politique. Je ne vais pas parler des élections en tant que telles, mais sur le sens de la politique. Et qu'est-ce qu'en dit l'Église à partir de la politique? Je trouve ça intéressant de réfléchir là-dessus. Et nous, comme catholiques, est-ce qu'on a quelque chose à dire de façon particulière? Est-ce qu'on a des pièges dans lesquels ne pas tomber? Est-ce qu'on a au contraire des atouts, tant comme électeur que comme potentielle personne qui serait élue? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à dire aussi à partir de notre foi? Alors, le premier point, c'est de dire que s'occuper de la politique peut paraître un peu surprenant pour l'Église, mais en même temps, elle a toujours affirmé qu'il y avait un terrain propre et une autonomie, que Église et politique sont indépendantes, et l'une de l'autre est autonome. Et c'est dans l'intérieur du Concile Vatican II qu'on voit ça. Et c'est important de dire ça, c'est que l'Église la catholique, et c'est la spécificité de l'Église catholique, à la fois est un État, qu'on appelle le Saint-Siège, voilà, où est le Saint-Père, etc. Il y a une cité, qui est la cité du Vatican, il y a le Saint-Siège, qui est un État, qui a des représentations diplomatiques, mais qui en même temps ne dépend d'aucun État. Ce qui fait que notre position comme catholique est très différente, par exemple, des positions des orthodoxes. Des orthodoxes qui, bien souvent, sont liés à des États, bon, le plus connu d'entre eux, c'est le patriarcat de Moscou, qui sont liés à des États, et donc, du coup, cette interférence entre le politique et le religieux dans l'orthodoxie a fait que ça n'a pas été facile de vivre et d'annoncer le Christ. Nous, on a une autonomie, j'allais dire, reconnue, hein, de par cet État, le Saint-Siège, et aussi la politique a une autonomie reconnue, c'est-à-dire que ce n'est pas une théocratie, on n'est pas là pour dire, en tout cas, qui doit être, on est là pour éclairer les consciences. Je pense que vraiment, à partir de la parole de Dieu et à partir du magistère, c'est éclairer les consciences. Hein. Donc du coup, mais c'est vrai aussi de prendre conscience que l'Église, le Saint-Siège, parce que l'Église c'est trop vaste, nous aussi comme baptisés, on forme l'Église, mais le Saint-Siège a aussi un rôle politique. Hein. Alors, en France, on le sent petit peu, mais par exemple dans le rapprochement au plan international, vous avez peut-être suivi ça, dans le rapprochement entre Cuba et les États-Unis, le Saint-Siège a joué un rôle de médiateur. Dans la réconciliation en Colombie entre les FARC et le gouvernement, le Saint-Siège aussi a... Donc, le Saint-Siège, à travers ses représentations diplomatiques, mais aussi à travers les églises particulières, les diocèses, les communautés, etc., ont un rôle particulier, et certaines même, j'y pense là maintenant, ont un rôle de réconciliation. Je ne sais pas si vous connaissez la communauté Sant'Egidio. Sant'Egidio, c'est une communauté qui est une communauté italienne, dont le rôle est assez de faire la réconciliation après des guerres civiles qui auraient pu avoir lieu à l'intérieur des États, etc. Et comme ça, ils sont intervenus dans un certain nombre d'États. Et voilà, donc c'est intéressant de voir que le rôle politique de l'Église, et bon, on ne peut pas ne pas penser à Jean-Paul II, qui a aussi un rôle éminemment politique, hein, même si le Saint-Siège n'a pas d'armée en dehors des gardes suisses, qui reste quand même une armée d'élite, certainement, mais assez réduite, etc., en hallebarde de Renaissance, etc. Bon, voilà, mais il n'a pas d'armée, il n'a pas de pouvoir économique, il n'a pas de pouvoir militaire, mais à un pouvoir spirituel. Et de ce point de vue-là, ce pouvoir spirituel vient éclairer toute personne de bonne volonté. Donc dont je vais parler ce soir, c'est aussi rappeler que cette question du champ politique fait partie d'un ensemble plus large de doctrines qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église. Et donc c'est dans cette doctrine sociale de l'Église que je vais puiser un certain nombre de choses. Donc c'est important de se rappeler l'autonomie des deux. Hein, et de préserver. On a vu il y a des périodes en France où on a voulu, sous Napoléon entre autres, que ce soit l'État qui nomme les évêques. Alors, encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais pour la nomination d'un évêque, il faut quand même l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Mais malgré la séparation des Églises et de l'État, il faut quand même l'autorisation du ministre de l'Intérieur pour... Alors, il y a... Ça se passe de la manière suivante. Le Saint-Siège donne trois noms et, en fait, le premier, c'est la volonté du pape. Et donc voilà. Et ensuite on renvoie le truc, on dit, du coup on choisit telle personne. Voilà. Bon, c'est des détails, mais c'est très important de garder que l'autonomie de l'Église soit gardée. Son autonomie de pensée aussi, et son autonomie d'expression. Et que ce ne soit pas le pouvoir politique, parce qu'il y a toujours la tentation du politique, comme aussi du religieux, de s'emparer du politique, et du politique de s'emparer du religieux. Ce qu'on voit dans le Moyen-Orient, par exemple, eh bien, c'est typiquement ça, c'est le politique qui s'empare de religieux pour pouvoir asseoir son autorité. Donc ce manque de distance, en fait, n'aide pas. Un autre point qui est important aussi de dire sur relation avec le politique, c'est Pie XI qui disait, au fond, la politique est le champ le plus vaste de la charité politique. C'est celle qui atteint le plus grand nombre, parce que politique, c'est dans la cité, c'est les choses publiques. Donc c'est important, il y a une valorisation du champ politique. Je dis ça parce qu'on voit, au contraire, aujourd'hui, comme une sorte de dépréciation du champ politique, hein, tous pourris, etc., etc. C'est pas la pensée de l'Église. Il y a une bienveillance, en tout cas un encouragement des laïcs, on le verra vers la fin, hein, à travailler au service du bien commun, hein, et donc à travailler dans une dimension aussi de faire respecter les droits de l'homme, etc., etc. Mais il y a une bienveillance, en tout cas, dans les différents documents du magistère sur le politique, à tel point que même le pape François, par exemple, qu'on lui a posé la question, mais est-ce qu'un chrétien, c'est-à-dire un laïc, vous, est-ce qu'il doit faire de la politique? Est-ce qu'il peut faire de la politique? Il dit non, il doit faire de la politique. Pour lui, l'engagement politique est un engagement très important. Hein, donc on y reviendra tout à l'heure, parce que parfois on voit un certain nombre de difficultés par rapport à ça. Donc c'est l'engagement pour la chose publique, hein, qui peut prendre différentes formes, hein, et qui est d'une manière ou d'une autre, le travail politique, c'est le travail au service du bien commun. Et ça, l'Église le rappelle, juste une petite définition du bien commun. On entend par bien commun cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection de façon plus totale et plus aisée. C'est-à-dire que nous sommes faits pour vivre en société, et à la tête de société, il y a une autorité. Et cette autorité, dans une démocratie, est élue, et elle a pour but de réunir les conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chaque membre d'atteindre au fond sa perfection, c'est-à-dire de la visée qu'il a, etc. Donc c'est ça le bien commun. Ce n'est pas la somme des intérêts généraux, c'est pas la somme des intérêts des intérêts particuliers. Hein, le bien commun, c'est vraiment quelque chose qui vise en même temps au bien de chacun et au bien du tout. Et de l'ensemble, et que quelque part, dans un monde idéal, on va dire, sans le péché originel, mais qu'il y ait aussi une manière de vivre ça la plus simple possible, hein, de façon à ce que tous les biens particuliers puissent aussi s'exprimer. Hein, voilà. Donc, la responsabilité du politique, donc on suit la doctrine sociale de l'Église, hein, c'est le bien commun, hein, et en même temps, cette société civile est l'expression. L'État, en effet, doit garantir la cohésion et l'unité de l'organisation, de sorte que le bien commun puisse être poursuivi avec la contribution de tous les citoyens. Voilà. Il y a important d'organiser la société. Le politique a cette mission d'organiser la société. Et on voit dans des sociétés qui ne sont pas organisées, si vous avez eu l'occasion de visiter des pays très pauvres, par exemple, je pense Madagascar, je pense Haïti, etc., et là, vous voyez ce que c'est que de ne pas avoir de structure de la société. Nous, on se plaint beaucoup de ceci, de cela, mais on rencontre un représentant de l'autorité publique assez régulièrement. Là, je suis passé, je suis d'Ourscan, et je suis passé par le péage. Là, bon, j'ai vu des gendarmes. Voilà, c'est un représentant de l'autorité publique. Mais on peut voir aussi des professeurs, mais on peut voir des gens du service hospitalier, on peut voir que ça, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont en lien avec l'organisation, hein, que l'État a à sa charge. Donc du coup, c'est intéressant de voir que y a cette responsabilité d'organiser la société, hein, et de faire que chacun puisse, tant les corps intermédiaires que les personnes en particulier, puissent atteindre leur propre finalité. Mais aussi, l'Église rappelle une chose, c'est assez intéressant, ça, le bien commun de la société n'est pas une fin en soi. Il n'a de valeur qu'en référence à la poursuite des fins dernières de la personne, ou au bien universel de la création tout entière. Dieu est la fin dernière de ses créatures. Là aussi, dans le bien commun, il y a la liberté religieuse. Et donc de s'assurer que, en tout cas, un pouvoir politique qui nierait cette liberté religieuse, d'une manière ou d'une autre, s'oppose au bien commun. Et donc s'oppose à la capacité de chacun d'accomplir ses propres tâches et de grandir aussi en sainteté, hein, d'une certaine manière. Donc, voilà, c'est, je crois que c'est important de souligner ça, cette disposition de l'Église. Voilà. Et aussi, alors, un autre point qui est intéressant à souligner, c'est que la vie en société est basée sur une amitié civile. C'est-à-dire que le politique a pour but de faciliter la relation aussi entre les personnes. En tout cas, de ne pas y mettre d'obstacles, autant que faire se peut. Hein? J'aime bien cette phrase d'Aristote qui dit « Pour vivre en société, il faut un minimum d'amitié. » Alors, quand d'amitié, au sens, entendons-nous, c'est pas qu'on va se prendre dans les bras, etc., avec le premier venu, c'est que d'amitié, c'est-à-dire c'est ce qu'il appelle la concorde. Il faut quand même un minimum de concorde pour vivre en société, paisiblement. En tout cas, d'attention, j'allais dire, aux autres, de cohésion, un minimum en tout cas. Parce qu'une société qui serait trop divisée et trop tendue, et avec des relations interpersonnelles trop tendues, eh bien forcément, tôt ou tard, ça clash et ça a des conséquences parfois dramatiques. Et donc, le politique a pour but, et l'Église le lui rappelle, c'est son travail de faciliter les relations interpersonnelles. En tout cas, de ne pas mettre d'obstacles à ces relations interpersonnelles, hein, et le facilite entre autres par le droit. Hein, le droit permet justement de faciliter à travers les lois les différentes relations. Hein. Donc du coup, je pense que c'est important de s'en rappeler. C'est important aussi, un autre point, c'est l'autorité politique et doit être vue comme une force morale. Alors c'est là où c'est pas forcément facile. L'autorité doit se laisser guider par la loi morale. Toute sa dignité dérive de son exercice dans le domaine de l'ordre moral, lequel repose à son tour sur Dieu, son principe et sa fin. Donc, au fond, il y a l'autorité politique, pour être vraiment autorité, doit vivre selon une certaine moralité. Ça veut dire aussi que on ne peut pas détacher l'homme politique de la personne, de l'individu. Et même s'il est difficile de se garder pur au milieu du monde, et singulièrement au milieu du monde politique, eh bien, on peut dire que, d'une certaine manière, l'exigence de la personne politique, elle est dans cette moralité, dans cette cohérence de vie, dans ses engagements. Moi, par exemple, je suis assez attentif au fait que les engagements privés des personnes prises, par exemple, dans le mariage, eh bien, pour moi, c'est un signe que cette personne-là, elle est peut-être aussi capable de réaliser les engagements publics qu'elle prétend donner à la nation. En tout cas, ça peut être pour moi, c'est un critère. Alors, vous me direz, de notre jour, ça réduit beaucoup le champ d'action. Ce n'était pas le seul critère, mais pour moi, c'est un critère. Quelqu'un qui n'a pas été fidèle à ses engagements privés, comment serait-il fidèle à ses engagements publics ? En tout cas, les États-Unis, de ce point de vue-là, sont assez exigeants, de ce point de vue-là, sur la moralité de celui ou de celle qui est appelé à gouverner. Voilà un peu sur les quelques principes de la vie politique. Hein, c'est assez modeste, assez rapide, c'est des choses que vous savez par ailleurs. Mais bon, je crois que... Maintenant, je voudrais plus venir à la question, à votre implication en politique. Leur rôle des laïcs en politique. Il y a des pièges. Il y a des pièges, je trouve, dans lesquels les catholiques ne doivent pas tomber et dans lesquels ils tombent un certain nombre de fois. Le premier piège, c'est une politique monomaniaque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est centré, au fond, sur les questions de bioéthique et qu'on le lie le programme d'un candidat qu'à travers la question de l'avortement, qu'à travers la question de la PMA, etc., etc. Et donc, c'est un peu monomaniaque, alors que c'est pourquoi il y a une entreprise qui va fermer, bah, le politique qui est là, député, sénateur ou représentant de l'État, doit s'occuper de cette entreprise, de l'avenir des salariés, etc. Et si vous dites, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est des questions sociétales et de bioéthique, bah, vous dire, bon, bah, c'est gentil, mais c'est un peu court, c'est pas ça que j'attends de vous. Hein. Et donc, faisons attention, ça, c'est, on voit au fond une forme de dérive et une forme de, comment on peut dire, de vouloir, le candidat idéal serait le candidat qui interdirait l'avortement, le candidat qui interdirait le mariage homo, le candidat qui interdirait le divorce et la pilule. Voilà, ce serait grosso modo le candidat idéal pour certains, en tout cas. En tout cas, c'est une tentation pour certains catholiques que je rencontre, voilà, de dire « Ah, mais non, moi, pour moi, ça, c'est important. » Oui, c'est important, mais ce n'est pas le seul aspect important à l'intérieur de la politique. Donc attention de ce côté un peu de politique monomaniaque un peu c'est les défauts parfois dans lesquels les catholiques tombent, on ne voit qu'un seul aspect et on se dit, ah non, s'il n'a pas ça, de toute façon moi j'irai pas. Mais non, regarde aussi ce qu'il y a. La politique c'est la recherche du meilleur, c'est pas forcément, en tout cas souvent, soyez honnêtes, en tout cas du moins mauvais en tout cas. Mais si on prétend avoir une pureté de ligne et que l'autre confesse à genoux tout ce que demande l'Église, bah du coup, c'est sûr qu'on a des candidatures plutôt de témoignage, mais on a des candidatures voilà, qui n'ont pas forcément de chance d'aboutir à un pouvoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir influencer le pouvoir à travers sa propre vision de la vie, et entre autres la vision concernant la personne humaine. Un autre défaut que peut avoir le catholique dans la politique, c'est... au fond, le discours du tous pourris. Hein. Là, que politique, on va y perdre son âme. Et au lieu de crier sur les politiques, on ferait bien de proposer notre aide. Que ce soit à un maire, que ce soit, si vous avez connaissé des députés, etc. Pourquoi ? Ces personnes-là, parfois, c'est le personnage qui est sous la lumière. Donc, quand il est sous la lumière, forcément, on voit tous ses défauts et bon, il ne peut pas cacher grand-chose, comme on le voit récemment. Mais cette personne-là n'est peut-être pas forcément bien conseillée. Et ça me marque quand même le fait de la solitude du pouvoir, certainement, mais du manque de conseils. Et nous, comme chrétiens, la grande grâce qu'on a, c'est qu'on a une bonne formation. Et donc, pensez aussi que, je pense à un niveau municipal ou à un niveau... pourquoi pas aller rencontrer votre député, mais d'avoir ce rôle aussi de conseil, en tout cas de lui donner, parce que ce qui manque terriblement, c'est quand même un manque de vision de nos politiques en général, quelque part que ce soit, c'est un manque de vision. Et du coup, je me souviens très bien François-Xavier Bellamy qui était venu et qui était à ma place, qui nous parlait qu'il avait été dans les ministères à un moment donné, etc., comme conseiller Sherpa de tel et tel ministre. Et il y avait une ministre dont le nom est de trois consonnes, et la première N et la dernière M, qui lui disait « Est-ce que vous pourriez me donner des idées ?» Alors moi, j'étais scié d'entendre ça. « Est-ce que vous pouvez me donner des idées ?» Elle le convoque, elle commence à lui dire, ben lui, il l'a dit dans cette assemblée, ce n'était pas les mêmes personnes, mais elle commence à lui dire « Vous êtes face à la prochaine présidente de la République. » Pourquoi pas, oui. Est-ce que vous pourriez me donner des idées ? Mais c'est dingue d'entendre ça. Le manque de vision. Mais ce qui est pas notre cas, nous, je veux dire, nous, on a des visions, non pas des visions de la Sainte Vierge, mais on a des visions, en tout cas, on a la vision, on a une anthropologie de la personne humaine à laquelle peuvent se raccrocher croyants et non-croyants. Donc, nous avons, nous aussi, des points très forts à proposer dans notre parcours et qui fait que, voilà, ce manque de vision me laisse assez perplexe. Un autre défaut que peuvent avoir les catholiques, c'est le père fouettard, la politique du père fouettard. Donc, c'est ça, tous pourris. On laisse la place à d'autres parce qu'on ne veut pas trop se mouiller. Ah ben non, je pense que ce n'est pas la solution. si c'est la charité la plus grande, comme dit Pie XI, et la charité la politique, et si notre but c'est la sainteté et la sanctification se fait par l'amour, par la charité, les vertus théologales, ben forcément, d'une manière ou d'une autre, en tout cas on ne peut pas exclure de notre champ d'action au moins un intérêt politique, au moins un minimum d'intérêt. Un désintérêt total de la chose publique, pour un chrétien, m'étonne. Ça m'étonne. Parce que ça veut dire qu'il ne sent pas une connexion avec la société dans laquelle il vit. Il ne sent pas une connexion avec la société. Il se sent comme, et c'est aussi un autre danger, comme dans une citadelle assiégée. Et certains chrétiens peuvent vivre cette dimension-là. C'est quelque part d'un entre-soi, et de dire, alors parfois avec raison ou avec tort, ça dépend un peu des gouvernements qui sont plus ou moins bienveillants face à l'Église, mais de se dire quelque part, voilà, je dois d'abord me défendre du politique, parce que nous sommes, nous, en minorité, et donc on est assiégé, donc on doit au contraire s'opposer. S'opposer, ou alors, au contraire, on reste dans le spirituel complet, et on n'est pas du tout dans cette dimension d'intérêt de la chose publique. Et donc, non, ça ne m'intéresse pas, de son bon. Mais vous savez, mes amis, que tout baptisé, de par son baptême, est invité à voter. Dans les pays, en tout cas, il y a la démocratie. Et que c'est, je trouve, un devoir, quitte à mettre rien dans l'enveloppe, mais un devoir du baptisé d'aller voter. Parce que, par ça, il montre au moins, au moins une fois tous les 5 ans, un minimum d'intérêt pour la chose publique. Et je trouve que chez nous, en tout cas, il y a cette idée de voilà, c'est un monde de loups, ce qui est vrai, ce que c'est en partie vrai, mais c'est un monde de personnes, quand on peut les connaître, qui sont souvent très seules. C'est un monde de personnes qui sont souvent dans c'est des vies, un peu des vies de chiens, quoi, des vies de politique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur et parfois sacrifient même leur famille, etc., en tout cas pendant un temps. Donc du coup, attention à cette politique du père Fouettard de donner des leçons à tout le monde et soi-même de rester sur le seuil. Un autre point qui aussi peut nous retenir pour s'impliquer ou d'une manière ou d'une autre nous intéresser, c'est la formation. On dit la formation, on n'est pas assez formé. Il faut encore qu'on se forme. Il faut encore que je ne peux pas m'engager parce que j'ai pas tous les... Cette formation-là, elle peut être un piège, c'est-à-dire qu'on veut toujours plus, alors qu'on ne porte, on ne percute pas que la formation, comme cette formation de ce soir, cette formation, elle vise l'action. Une formation qui ne viserait pas l'action, moi, ça m'interroge. Ça m'interroge. Et c'est vrai que je suis interrogé, peut-être... SPI contribue à ça aussi, mais à la foultitude de propositions spirituelles, de conférences, de topos, etc., de toutes les sortes, surtout sur Paris. Mais je me dis, so what ? Et ensuite, est-ce qu'il y a cette formation-là ? J'ai appris des choses. Cette formation est une responsabilité. Est une responsabilité. Et c'est la bonne manière de vivre cette formation. Et on voit bien que parce que la formation pour elle-même, c'est un piège. Jésus, au contraire, lui a donné son Esprit Saint aux apôtres pour qu'ils aillent, aller de toutes les nations, faites des disciples. Ce n'est pas pour vivre dans l'entre-soi, dans une certaine spiritualité recluse. Et on sent ce côté un peu communitariste, un peu microcosme, créer, pourquoi pas, un micro-parti ou s'ériger un peu comme victime, de se vivre comme citadelle assiégée, je trouve ça vraiment dommage. C'est dommage parce qu'il y a quelque chose qu'on a à donner à la population, à la société civile, on a quelque chose à donner comme chrétien. Et cette parole-là, beaucoup plus que vous ne le croyez, cette parole-là, elle est attendue. Elle est attendue. Et si ce n'est pas vous qui la donnez, si ce n'est pas nous qui la donnons, qui va la donner ? Qui va prendre les rênes ? Quelqu'un de moins formé, moins bienveillant ? Là, je pense qu'attention, la formation dans un sens égocentrique et qui ne débouche pas sur l'engagement, ça peut, en tout cas, ça me pose question, quoi. Et puis un autre défaut, mais il y a aussi des qualités, rassurez-vous, je vais y venir, mais un autre défaut, c'est on est impatient. Souvent, comme catholique, on veut tout de suite. On veut être à 100% d'accord avec le parti. Mais c'est impossible d'être 100% d'accord. Quel que soit le parti, c'est impossible d'être 100% d'accord. Il y a des trucs, forcément, et on choisit celui qui se rapproche le plus. Et puis, c'est même le Saint-Père qui disait, il ne serait même pas bon d'avoir un parti catholique. Le Saint-Père l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, avoir un parti catholique, ce ne serait pas du tout rendre service à l'Évangile. Parce que ça voudrait dire que... Et puis ça ne fonctionne pas, il y a eu des essais en France, ça reste très minoritaire, ça reste... Et pour le coup, c'est... le risque de perdre l'autonomie entre l'Église et puis la politique. Donc c'est certainement pas une solution. Un parti catholique n'est pas la bonne solution, dit le pape François. Et donc il y a un côté intransigeant. On veut être 100% d'accord, comme une sorte de repli sur soi. Hein, alors que bon nombre de choses que nous portons, d'autres peuvent en bénéficier. Notre réflexion sur la personne humaine, notre réflexion sur la société, sur l'économie, que de voir que la personne humaine doit être au centre de la politique et non pas comme un moyen, comme on le voit trop aujourd'hui, au service d'intérêts financiers pour le plus petit nombre. Voilà, cette personne humaine, rien que ça, le fait de dire ça, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes, ça fait partie de la pensée sociale de l'Église, qui seraient d'accord. Et nous, comment, ça veut dire un minimum se former. C'est ce que je viens de dire, c'est archi simple, et vous le savez déjà. Donc c'est pas du tout une nouveauté de ce point. Mais on est parfois impatient, intransigeant. Hein, donc on veut le candidat parfait. On veut le candidat parfait, c'est ça, contre le divorce, l'avortement, la pilule, le mariage homo, etc., qui fait bien tout. Et puis on ne regarde pas parfois le reste du monde. Et on dit, ah mais non, il est d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord, mais non, c'est fini, je ne voterai pas pour lui. Non, c'est pas... Le politique, c'est le mieux, c'est pas forcément le bien. C'est pas pareil. Le mieux, c'est-à-dire, dans l'état actuel de la société, qu'est-ce qui serait le mieux ou le moins mauvais, et non pas forcément le bien absolu. Et on a une vision parfois trop métaphysique de la politique, comme si c'était le bien en tant que tel, le bien absolu. Non, ça c'est... Parce que on est dans une partie morale, et dans la partie morale, bien, surtout morale en société, ça ne peut jamais être le bien absolu. Et regardez un peu d'où sont parties les grandes dictatures, précisément de ce désir de faire de la société un bien absolu et de n'avoir qu'une tête et de créer, voire une humanité nouvelle. Hein, parce qu'on voulait l'absolu. Mais or dans la vie politique et la vie sociale, c'est un aspect pratique, une morale pratique, c'est pas une morale, on n'est pas dans le domaine métaphysique. Des valeurs, des absolus, du bien, du beau, de l'être, etc. On n'est pas dans ce domaine-là. C'est un domaine auquel je crois profondément, mais si on veut appliquer ça à la chose politique, forcément, il va y avoir un décalage considérable et on va se décourager. Voilà un peu ce que je voulais dire. Bon, le risque de ça, du communitarisme, j'en ai un petit peu parlé, ça c'est sûr. Maintenant, quelles sont les forces que nous avons, nous, comme catholiques? Premièrement, la force de la prière et de la confession par rapport à d'autres élus, à d'autres électeurs. La force de la prière et de la confession, parce que ce qui guette beaucoup l'homme politique, c'est le narcissisme. Hein, c'est-à-dire le fait de vouloir, et certains, on voit bien, c'est une forme de dépendance, c'est même addictif, de vouloir la pouvoir pour être flatté, pour être au centre d'attention, etc., etc. Or, je vais dire, dans l'ADN du chrétien, il y a un peu l'inverse. Il y a au contraire le décentrement. Et ça, je pense que c'est une grande force pour nous. On est invité, et vous l'avez entendu plusieurs fois, on est invité au décentrement de nous-mêmes. Nul ne vit pour soi-même, nul ne meurt pour soi-même, dit saint Paul. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. C'est-à-dire que, et ça, c'est fait que, du coup, on ne va pas d'abord rechercher notre propre intérêt, hein, mais au contraire d'avoir ce souci de rechercher, entre autres, le bien commun, hein, comme je l'ai dit au départ. Mais la prière et la confession, ça, la prière, vous connaissez peut-être Robert Schuman, l'un des fondateurs de l'Europe, et un de ses ennemis politiques, alors qu'il était à la fondation de l'Europe au sortir de la guerre, vous imaginez, les anciens combattants, les juifs déportés, etc., les rescapés des camps, étaient vent debout contre une amitié, contre l'Allemagne, etc. Et un de ses ennemis politiques lui dit « On ne peut rien contre lui, il prie tous les jours. » On ne peut rien contre lui, il prie tous les jours. C'est vrai que ça demande une vie, parce qu'il y a énormément de tentations aussi dans le domaine politique, une vie de prière et de personnel. Dès qu'on est dans la chose politique, quelle qu'elle soit, que ce soit même dans une municipalité petite, municipalité de quelques centaines d'habitants, et à la fortiori à la tête d'un pays, ben, je trouve que c'est important cette notion de vie de prière. Et puis confession, on a cette force-là, c'est qu'on croit premièrement qu'on peut se tromper, on a le droit à l'erreur, on n'est pas obligé de l'être le surhomme, l'homme parfait, la femme parfaite. On a le droit à l'erreur aussi. Il y a des choses qu'on croyait bien faire, puis on a fait mal. Alors, il y a parfois des personnes qui sont carrément corrompues, ça, c'est autre chose. Mais il y a des personnes qui pensent bien faire, puis en fait, ou des pratiques qui parfois se font, qui se développent dans des sociétés politiques qui ne sont pas les bonnes. Du coup, qu'il faut réviser, etc. Mais on a toujours la possibilité d'un pardon. L'avantage, c'est que nous, on examine notre conscience à chaque confession. Et c'est quand même un grand point fort pour l'exercice de la chose politique. C'est un point fort parce que justement, on a cette possibilité, quelque part, à la fois de ne pas désespérer de nous-mêmes, et puis aussi d'avoir la possibilité de dire, bah oui, là, j'ai commis une erreur. Et sans pour autant s'effondrer. Parce qu'on a l'habitude, dans la confession, de demander pardon au Seigneur. Et ça, c'est une force, je pense, des catholiques, c'est justement sortir du narcissisme et l'examen de conscience qui aide à prendre conscience de mes limites. Le décentrement, ça j'en ai parlé, on n'est pas là pour se servir, mais pour servir. Le pouvoir est un service, d'abord, dans la dimension évangélique. On est d'abord serviteur. Et puis la charité, on a quand même la charité qui est vraiment un plus. Alors, parce que c'est un monde rude, le monde politique, de grandes compétitions, etc. Mais la manière de répondre, les discours agressifs, même quand on voit, parfois je vois des choses sur Facebook, etc., des réponses à des posts, etc., sur de tel ou tel homme, il y a des réponses qui sont très violentes, mais qui sont trop violentes. Et parfois des gens qui se disent catholiques, etc. Bon, la charité, comme dit Pion, c'est la charité la plus grande, la politique. Et donc, d'avoir aussi cette charité, quand on parle des hommes politiques, et puis soi-même, de faire prendre conscience que, délimiter, en tout cas, de notre vie, les discours agressifs, les discours... on rappelle la route à suivre, tout en étant charitable. Et même si on voit que l'homme politique ne fait pas tout bien, ou en tout cas ce qui nous semble mieux... peut-être on peut proposer son aide, on peut aller le voir, on peut lui en parler, lui dire notre opinion. Vous savez qu'il y a pour les députés, les sénateurs, il y a des permanences. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir votre député. Il est tenu de recevoir les électeurs de sa circonscription. Alors, pour le président de la République, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de permanence, mais il y a souvent des meetings, etc. Bon, du coup, on peut aller voir les candidats, mais on peut les interroger, on peut... Et je trouve que voilà, quelque part, je trouve qu'il y a une vraie et puis une grande force que nous on a comme chrétiens, c'est qu'on est assoiffé de sens. C'est-à-dire que on ne va pas au travail uniquement pour notre alimentation, on est assoiffé de sens dans le sens qu'on n'est pas tous appelés à être élus, bien sûr, mais on est tous appelés à être des citoyens actifs. Et par exemple, je vous pose la question, qui d'entre vous est, c'est pas obligé de me répondre, mais qui d'entre vous est encarté ? Rien que le fait d'être encarté dans un parti, ce fait d'être encarté, moi je trouve ça déjà bien, quel que soit le parti. Parce que ça veut dire au moins que vous vous préoccupez de la chose publique. Il y a certains qui sont encartés là, parmi vous. Oui, c'est pas la grosse masse, moi aussi je suis encarté. Donc, c'est bien, c'est bien. Quel que soit le parti, je trouve ça bien d'être encarté. Parce que c'est dire aussi que je me tiens au courant des choses politiques. C'est une manière, c'est une manière à travers la participation au parti, de faire passer aussi ses idées. Si vous n'avez aucun contact avec les partis qui sont appelés à nous gouverner, comment pouvez-vous faire passer vos idées ? Et comme chrétien, alors que vous avez une super formation, alors que vous avez une bonne... Comment voulez-vous faire passer ça ? Si d'une manière ou d'une autre, vous vous adhéressez pas et que vous restez que dans une dimension spirituelle. Ça peut être un piège, cette spiritualité, justement, qui nous déconnecte, alors que notre religion, par définition, c'est une religion de l'incarnation. C'est-à-dire une religion qui touche le concret des gens. Donc je pense que c'est important. Et aujourd'hui en particulier, il y a un boulevard qui est complètement ouvert aux femmes. Ça, mesdemoiselles, mesdames, peut-être certaines d'entre vous, mais il y a un boulevard qui est ouvert. Parce que, avec cette fameuse loi de la parité, qu'il faut absolument un homme, une femme sur toutes les listes et compagnie, etc. Du coup, les partis sont à la recherche désespérément de femmes qui puissent être sur les listes électorales. Donc il y a un boulevard là qui vous est ouvert. Il y a des demandes, etc., etc. Donc du coup, si on voit quelqu'un qui est motivé, qui fréquente un parti, qui s'engage dedans, qui va aux réunions, qui commence, etc., ce ne serait pas étonné que tôt ou tard, on lui propose quelque chose. Et donc là, mesdemoiselles, mesdames, vous avez vraiment une opportunité qui vous est offerte. La lettre à Dioniette, je ne sais pas si vous connaissez la lettre à Dioniette, qui dit « Les chrétiens doivent être comme l'âme dans le corps. » Les chrétiens doivent être comme l'âme dans le corps. Nous sommes appelés à ça. Mais si nous n'agissons pas au plan politique, comment on va animer notre société ? Les difficultés de nos sociétés, en grande partie, c'est la démission des chrétiens. Ce n'est pas tant de ceux qui ne prennent pas au sérieux leur baptême. Tout le monde parle d'islam, l'islam c'est très bien, mais pas bien, j'en sais rien. Mais... qu'est-ce que le problème ? C'est les mosquées pleines ou les églises vides ? C'est quoi le vrai problème dans un pays qui se dit à 60% chrétien ? Cette démission du christianisme et parfois de l'élite chrétienne, ce désengagement, je trouve qu'on en paye forcément les frais, forcément. Pour moi, je trouve ça très grave. Parce que progressivement, la société n'est plus irriguée, justement, par une pensée chrétienne. Ça ne veut pas dire une théocratie, ça ne veut pas dire que tout le monde croit, c'est que n'est plus irriguée dans sa manière de penser. On n'entend même plus le discours sur la personne humaine que portent les chrétiens. Parce qu'ils n'ont plus lieu pour s'exprimer, parce qu'ils restent dans l'entre-soi. Donc... il ne faut pas dire, oui, la société va mal, etc. Moi, comme vous rappelez la citation de Kennedy, avant de te demander ce que ton pays peut faire pour toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays ? Et donc, Dioniette, on a une lampe à l'intérieur de nous-mêmes, et si on ne la met pas sur le lampadaire et qu'on la met sous le boisseau, nous étonnions pas que la société ne soit pas éclairée. On porte quelque chose. On n'est pas sans rien. C'est des siècles d'histoire, de sainteté, de réflexion, de qui ont façonné la France. Et qui ont... Mais si on n'est pas au rendez-vous de l'histoire, modestement, vous parlez du fait d'être encarté, modestement, vous ne pouvez peut-être que ça. En tout cas, se désintéresser, je trouve que c'est celui qui se désintéresse de la chose politique, la chose publique, il porte une lourde responsabilité. Vraiment, je pense que... Et les grandes catastrophes, c'est un communiste qui s'appelle Gramsci, un communiste italien, qui dit « Les grandes catastrophes ne viennent pas simplement de personnes diaboliques qui ont entraîné l'humanité dans l'abîme, mais de la passivité des masses. Je hais les indifférents. Et ça nous renvoie à l'Apocalypse, je hais les tièdes. L'heure n'est pas à l'indifférence, l'heure est à l'engagement. Dans votre sensibilité politique. Et quelque part, on a les dirigeants qu'on mérite. Alors, c'est le père Embretz, peut-être vous connaissez, qui est un dominicain, qui disait « Les catholiques sont les spécialistes sont des intermittents du réveil. » Alors, ils se réveillent de temps en temps, en 84, quand on a voulu supprimer l'école libre. Ils se réveillent en 2013 avec la loi Taubira, etc. Et tout, de façon extraordinaire, je trouvais toute une montée, justement, de votre jeunesse, de votre génération, et toute une montée d'une manifestation avec l'éveilleur, avec la manif pour tous, etc. C'est tout un réveil aussi de gens, c'est un peu les gens bien élevés, grosso modo, qui défilent jamais, quoi. C'est cela. Mais il y a eu tout un réveil formidable. Et ça, c'est une force vive. Donc, c'est de ce réveil-là, qu'est-ce qu'on en fait après? Je veux dire, ces personnes-là, est-ce qu'elles s'assoupissent à nouveau? Et puis, on attend peut-être encore dans 20 ans, on va se réveiller. Hein, c'est les catholiques intermittents du réveil. Je trouve ça pas mal comme formule du père Embretz, un dominicain. Voilà. Et puis, si le Seigneur t'appelle à cette vocation, vas-y, fais de la politique, dit le pape François. Cela te fera souffrir. Cela peut-être t'entraînera même au péché. C'est pas François qui dit ça. Mais le Seigneur est avec toi, demande pardon et va de l'avant. Moi, je trouve ça, cette phrase, très belle. Ça t'emmènera peut-être même, oui, c'est vrai que c'est difficile de se maintenir pur dans le monde. Ça, c'est vrai. Et dans le monde politique, peut-être encore plus. C'est difficile. Parce qu'on est tenté. Il y a beaucoup de tentations. Et quand vous, moi, je pourrais penser ces derniers temps beaucoup aux tentations du Christ au désert, à des grandes tentations qui se retrouvent dans tous les scandales qu'on voit affichés par les médias, transforme ce pain, cette pierre en pain, tout ce qui est lié au fond au problème de mœurs, au plaisir, etc. Bon, il y en a comme ça qui ont loupé leur rendez-vous avec la France pour des questions de mœurs. Les questions d'argent, voilà. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes. Vous rappelez, on va bientôt rentrer dans le carême, donc au mercredi décembre, vous entendrez ça. Le combat de Jésus, c'est vrai que les questions d'argent nous tendent des pièges. Et puis les abus de pouvoir, l'orgueil de l'esprit. Jette-toi du sommet du temple, c'est l'orgueil de l'esprit. Moi, je pense beaucoup à ça, c'est aussi justement avec tout ce qu'on vit. Je me dis, comme il y a les tentations, quelque part, ce sont les tentations de toujours, qui sont enracinées dans la personne humaine. Mais comme le politique, d'une certaine manière, les vivent un peu de façon un peu suréminente. Voilà. Et donc. Et puis le Saint-Père qui dit. Se mêler de politique n'est pas seulement une possibilité, une option pour les catholiques, mais un devoir. Un catholique ne peut se contenter de regarder du balcon. Il manque de ces grands hommes politiques qui pouvaient sérieusement s'impliquer pour leurs idéaux et ne craignaient pas le dialogue, la lutte, mais continuaient avec intelligence le charisme propre de la politique. Regrette le pape François. La politique est l'une des formes les plus élevées de la charité. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette vision, vraiment vous encourager, et surtout votre génération, je trouve que nous avons vécu toute une période, je pense pour la plupart d'entre vous, avec cette manif pour tous, etc. Peut-être, bon, en tout cas, ça a réveillé énormément de force vive. Laissez pas, n'éteignez pas l'esprit, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, essayez de voir que dans la chose publique, comment vous pouvez influencer, comment vous pouvez travailler, comment rendre ce monde plus juste et plus fraternel. On a quand même une responsabilité.